Bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être ici, parce qu'on est chez nos amis, Pris et Cyril et Michael, et aussi ça fait plaisir d'être parmi vous, de louer ensemble notre Dieu en tant que frères et sœurs. Voilà, de se souvenir qu'on a le même Dieu qui nous a fait grâce, qui s'est révélé à nous dans nos vies. Voilà, c'est une joie de le vivre où qu'on aille et qu'on rencontre des frères et sœurs. Alors, on vient de Marseille. On n'est pas tout à fait quand même des étrangers, dans le sens où bon, on est déjà venu parmi vous. On a grandi tous les deux aussi à Valence. Donc, en fait, voilà, quand on arrive, on vient ici, on voit les trois becs, on n'est pas tout à fait dépaysés. J'en profite pour vous transmettre les salutations de l'église du CEP à Marseille, de l'église sœur. Voilà, je sais que vous connaissez aussi plusieurs personnes là-bas et donc je vous transmets les salutations. Alors, je sais que vous avez des projets, des défis ici en tant qu'église, de trouver peut-être un bâtiment par exemple. Alors, vous êtes bien ici, mais vous installez aussi les chaises tous les matins, tous les dimanches matins, etc. Et je sais que ça peut faire partie des perspectives et des rêves que vous avez avec le Seigneur. Vous avez, par exemple, j'ai vu qu'il y en a qui sont habillés en flambeaux. Je sais que c'est un projet récent, ça fait partie de votre vision, de pouvoir aussi être des témoins du Christ auprès des gens qui ne le connaissent pas encore et des enfants qui peuvent participer au flambeau. Voilà, tout un tas de choses qu'on a dans nos églises où on rêve avec le Seigneur. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on souhaite avancer, être intentionnel. Quoi qu'il en soit, c'est des choses où souvent ça va être des défis, il va y avoir des challenges. Qui sait ce que Dieu en fait prépare dans nos églises, dans nos vies, mais aussi dans notre époque, dans notre ville, dans notre pays. Et la question, c'est un peu comment être dans ces plans de Dieu, ces plans souverains, et comment avoir du secours dans notre quotidien pour être des hommes et des femmes de Dieu qui entrent dans ces plans, dans ce contexte. Alors ce matin, je voulais nous encourager sur une pratique clé de la vie chrétienne qui est la prière. J'en profite pour dire que du coup, on est interpellé à l'église du CEP en ce moment par aussi ce sujet de la prière. On a nous aussi des projets. En ce moment, on a un projet de multisite, c'est-à-dire d'avoir une église. On est actuellement implanté dans un quartier de Marseille. Et on a un projet, dès la rentrée prochaine, de commencer un deuxième site dans la région d'Aubagne, c'est-à-dire vers l'est, on va dire, de Marseille, à 30 km. Et pour l'instant, on est dans un stade où on rêve avec le Seigneur, mais où ça devient un peu concret parce qu'il y a un planning. Mais on veut vraiment, toute cette année scolaire, être dans la prière, avoir des temps de marche de prière, se confier à la direction de Dieu. Et c'est dans ce sens-là aussi que ce message, c'est quelque chose que j'ai pu partager déjà dans notre église du CEP et que je voulais vous repartager ce matin pour qu'on s'encourage ensemble. Voilà, alors, je me suis basé sur l'histoire du personnage de Samuel dans la Bible et à travers quatre tableaux dans son histoire. Donc, ma prédication, mon message ce matin, je l'ai appelé « L'impact d'une vie de prière », dans le sens où être des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de prière, c'est aussi avoir un impact sur notre temps, sur nos familles et autour de nous. Alors, premier tableau, que j'ai appelé « Des racines invisibles pour un fruit bien visible ». Alors là, je vais faire quelque chose. Peut-être vous êtes demandé si j'avais peur d'avoir froid, mais c'est pas ça, c'est que quand je mets cette écharpe, je m'appelle Élie. Je vous salue, je suis prêtre en Israël. Et notre peuple est installé depuis quelques centaines d'années dans ce pays. Et il est organisé comme une théocratie, c'est-à-dire qu'en théorie, donc on n'a pas de roi humain. Et les membres du peuple, ils sont censés obéir à notre Dieu, à l'Éternel, à Yahweh. Alors, ça ne marche pas vraiment. Et cette période a été sombre dans notre histoire. C'est la période des juges dans la Bible. Alors, il y a eu quelques belles histoires, il y a des beaux héros dans le livre des juges, mais aussi il y a beaucoup d'épisodes très difficiles. Et vous voyez, ce n'est pas toujours la foi et la sainteté qui brillent dans les récits de cette époque. Et pourtant, au milieu de ça, il y a parfois une étincelle de lumière. Alors moi, Élie, j'habite à Silo, où se trouve le temple de l'Éternel, le lieu de culte, en fait, plus exactement. Et hier, une femme est venue prier dans ce temple, comme quoi il y a encore de la foi dans ce pays. Alors, moi, j'ai cru qu'elle avait trop bu, parce qu'en fait, elle était en train de murmurer à voix basse. Et je me suis approché d'elle, et voilà ce qu'elle m'a dit. Lecture de 1 Samuel, chapitre 1, versets 15 à 18.
Non, monseigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse. Et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas, ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur.
Eh bien, dans ce cas, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta requête que tu lui as adressée.
Je me recommande à ta bienveillance.
Voilà ce qui s'est passé. Alors j'espère revoir un jour cette femme. Bon, c'est de nouveau Luc qui vous parle. Donc premier tableau, et ça ouvre le livre de Samuel dans nos Bibles. Alors là, c'est la prière, on n'a pas tout le détail dans le texte qu'on a lu, mais c'est la prière d'une femme qui s'appelait Anne. C'est une femme de foi. Et le sujet de sa prière, il était double. Un, c'était l'espoir d'avoir un enfant, parce qu'elle était stérile. Et le deuxième sujet de sa prière, c'était le vœu de consacrer cet enfant à l'Éternel, si elle le recevait. Et cette prière, elle va être exaucée, on le voit dans le livre de Samuel, et ça va donner lieu à un cantique magnifique qui est dans le chapitre 2 du livre de Samuel. Et alors Anne, je vais vous parler un peu de ses racines invisibles, pour un fruit bien visible. Anne, elle va donner naissance à Samuel, et ce Samuel, il va être lui-même un homme de prière, et ça va être un homme qui va compter dans la vie du peuple d'Israël. C'est un homme qui va oindre pour roi les deux premiers rois d'Israël. Alors Anne, elle fait partie de ces personnages de foi, finalement, que Dieu sait garder, même dans une période si difficile, comme le livre des juges. Et quelque part, elle fait partie de la chaîne des causes-conséquences que Dieu, dans sa souveraineté, a utilisées pour conduire son peuple là où il le voulait, pour oindre en particulier ses rois à travers Samuel, etc., etc., et pour préparer aussi le cœur de Samuel. Combien de réveils dans l'histoire de l'Église ont commencé par de la prière intense, par le fait de se retourner, de se tourner vers le Seigneur. À titre individuel, on peut témoigner aussi dans nos vies de ces racines invisibles qui produisent des fruits à la fin bien visibles. Il y a un an et demi, en 2022, ma maman est décédée, elle est auprès du Seigneur maintenant, et à son enterrement, donc c'était à Valence, pas loin, et du coup, il y a quelque chose qui a été cité et indiqué, c'était la prière qu'elle avait eue pour ses enfants, une vie de prière, et la transmission de la foi. C'était associé aux prières de mon papa aussi. Et je sais bien que ce n'est pas mécanique. On est quatre garçons et on appartient tous au Seigneur. Je sais qu'il n'y a rien de mécanique, il y a aussi un aspect personnel dans la foi et c'est une grâce de Dieu. Mais c'est évident que ce travail invisible et ce souci que notre maman elle a eu pour nous, ça a compté aussi dans ce que le Seigneur a pu faire dans nos familles. À l'échelle collective aussi, l'Église elle est soutenue par la prière. Je pensais à ce pasteur Timothy Keller qui a fondé une église importante à New York et plus particulièrement dans le quartier de Manhattan. Et il raconte dans un de ses livres, c'est une église aujourd'hui qui compte plus de 5000 personnes, l'église du Rédempteur. C'est des églises qui sont assez proches de nos sensibilités. Comment ça a commencé? C'était avoir une vision pour cette ville, pour ce quartier. C'était prier avec des pasteurs et d'autres chrétiens pour avoir à cœur une vision pour Manhattan. Des racines invisibles pour un fruit finalement bien visible. Et en fait, c'est à ça que je veux nous encourager par déjà ce premier tableau, à être des hommes et des femmes de prière dans nos vies individuelles, mais aussi en tant qu'Église, dans vos projets pour un fruit bien visible dans le temps que le Seigneur voudra. C'est lui qui est souverain et qui conduit. Et que ça puisse conduire à une croissance individuelle, à une croissance collective. Alors, deuxième tableau, prendre le temps de prier. Et entre parenthèses, j'ai mis « ça s'apprend ». Et bien finalement, je l'ai revue, cette femme. Elle a pris le temps de sevrer son fils. Alors dans notre culture traditionnelle, ça prend plusieurs années, on allait être pendant plusieurs années. Et elle est revenue pour accomplir le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Et Samuel, maintenant, il est désormais au service de l'Éternel dans le temple. Alors il ouvre les portes le matin, etc. Il fait différentes tâches et il me rend bien service, moi qui commence à être un peu âgé. Mais aussi je trouve que c'est une bonne chose pour Samuel parce que finalement il apprend à servir le Seigneur, il apprend à prier et c'est un temps spécial dans sa vie. Alors plus tard, il mènera sa vie, il retournera à Rama, dans sa ville natale, il aura une famille, il va mener sa vie. Mais là, c'est un temps à part. Et la nuit dernière, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Je vous propose la lecture de 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10.
L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. »« Je n'ai pas appelé, » lui dit Élie. « Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, « Samuel !» Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, » lui dit-il. « Je n'ai pas appelé, mon fils, » lui dit Élie. « Va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. »
Merci pour la lecture, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors dans ce deuxième tableau, on voit que, bah comme sa maman, Samuel, il est en train de devenir un homme de prière, un homme de foi. Et dans une vie qui certes est occupée, et elle est occupée à du service, mais dans une vie qui est aussi propice à la méditation et à l'écoute. Et c'est ce qu'il est en train d'apprendre. Et je relève ce point parce que dans notre temps, dans notre époque, c'est parfois une difficulté. Non seulement on est occupé, ce qui est une très bonne chose, mais on ne sait pas toujours ne rien faire. Avoir ce sabbat que Dieu demande dans sa parole, parfois on le confond avec les loisirs, qui sont aussi une très bonne chose. Mais voilà, avoir ce temps où on peut méditer l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la nature, il y a une très belle nature dans la Drôme, je sais que vous appréciez, ça a été évoqué ce matin. Avoir des temps où on médite la parole de Dieu, où on médite qui est Dieu pour nous, avec un rythme un peu plus simple, un peu ralenti, c'est des choses où Dieu nous nourrit. Et on a besoin de considérer que c'est important, ces temps-là, de les prendre, de les sanctuariser un petit peu. Et quelque part, si on n'est pas prêt à passer ce temps avec Dieu comme quelque chose d'important, il y a quelque chose qui nous arrive au quotidien, je pense que vous connaissez, on aura toujours 1000 pensées qui nous traversent, même quand on essaie de prier. Et même si on est bien disposé, c'est quelque chose que je pense tout chrétien connaît. Et c'est Don Carson, un Américain, dans son livre « La prière renouvelée », c'est un livre que je conseille, qui est très beau, qui revisite les prières de Paul pour nous encourager à prier, et il écrit cette chose. Tous ceux qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années savent que nos prières ressemblent parfois à ceci. Seigneur, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes de venir dans ta présence par le sang de Jésus. C'est un privilège merveilleux que de t'appeler Père. Je me demande où j'ai posé mes clés de voiture. Allons, un peu de sérieux. Père Céleste, j'aimerais tout d'abord de demander de veiller sur ma famille, non pas simplement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue moral et spirituel. Ah, le sermon de dimanche était d'un ennuyeux. Je me demande si je vais arriver à réaliser ce rapport à temps. Non, non. Alors, Père, bénis le ministère de ce couple missionnaire dont j'ai oublié le nom. Je viens de me rappeler que j'ai promis à mon fils de réparer son vélo aujourd'hui. Et Carson reprend, c'est alors cette prière qui nous fait à la fois rire et à la fois pas trop. Il dit, mais alors, est-ce que finalement je suis le seul chrétien dont les pensées ont tendance à s'égarer ? Et on se reconnaît bien là. Alors, prendre du temps, ça veut dire protéger quelque part. Ce temps-là, ça veut dire aussi s'organiser et fermer la porte à la fois de notre cœur, enfin, protéger finalement notre cœur et nos pensées, fermer aussi peut-être la porte de notre chambre ou de notre bureau pour avoir un temps approprié. Et puis, il y a aussi différentes manières de se concentrer. On peut prier à haute voix. On peut utiliser parfois un papier. Moi, ça m'est arrivé dans certaines périodes de ma vie de lister un peu les grands thèmes sur lesquels je veux prier et ça m'aide à suivre. On peut utiliser un texte biblique comme trame. Certains utilisent parfois le Notre Père, non pas pour le réciter comme une litanie, mais comme trame de sujet de prière et de manière de s'adresser à Dieu. Il ne s'agit pas d'être systématique et de toujours refaire la même chose, mais quelque part trouver des moyens. Moi, j'ai été encouragé dans le fait aussi de demander à un ami comment il fait pour sa vie de prière. Quand je préparais, je réfléchissais à cette prédication, j'avais demandé à un ami au CEP, un des responsables, comment il faisait. Et en fait, il ne fait pas de la même manière que moi dans son quotidien, mais ça m'a encouragé sur certains points. Ça m'a... Et puis on s'est encouragé l'un l'autre finalement à être plus intentionnel dans nos vies de prière. Donc je vous encourage aussi à le faire, à demander à quelqu'un de confiance, un ami, un frère, une sœur, bah, comment il fait, lui, avec quelle technique un peu. Ce n'est pas que des techniques, mais qu'est-ce qui est important pour lui, les choses clés finalement pour vivre sa vie de prière et avec aussi les combats que c'est. Voilà donc mon encouragement sur ce deuxième tableau. J'ai du mal à suivre mes diapos là. D'accord. Ça tombe bien parce que j'oublie de les avancer. Mais mon deuxième tableau finalement, c'était de nous encourager à consacrer une part de nos vies à la méditation et à la prière. Et ça s'apprend, ça s'encourage. Et j'ai moi-même le premier finalement besoin de me prêcher ce message dans ma vie, je vous le promets. Alors, troisième tableau, une vie de dépendance. Et je crois que pour ce tableau, je vais passer la parole à un personnage qui est la femme de Samuel.
Bonjour. Donc, je n'ai pas de prénom qui soit donné dans la Bible, mais je suis la femme de Samuel le prophète. Alors, il n'est plus employé dans le temple à Silo. Nous habitons maintenant à Rama, sa ville d'origine, avec notre famille. Alors, si je devais dire quelque chose de spécial sur mon mari, c'est qu'il est consacré à l'Éternel. Alors, ça se voit un peu dans son apparence physique, car c'est ce qu'on appelle un Nazaréen. Donc, il a les cheveux longs. Le rasoir n'est jamais passé sur sa tête, en signe de soumission à Dieu. Ses cheveux ont blanchi aujourd'hui. Mais sa dépendance à Dieu se voit aussi dans la manière dont il gère les choses au quotidien. Il recherche la volonté de Dieu par la prière et il dépend de lui constamment, même dans les pires difficultés. Et hier, il s'est passé quelque chose qui a été très difficile à vivre pour lui. Voilà ce qui s'est passé.
C'est moi qui lis. Donc on est à la fin de la vie de Samuel. Plutôt vers la fin. Tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Et lui déclarèrent, « Te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis-nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Et cette demande d'établir un roi pour les diriger déplut à Samuel. Il pria l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Cette scène m'a particulièrement parlé parce que je trouve qu'elle est révélatrice de la vie de prière et de dépendance de Samuel. Imaginons un peu, toute sa vie, elle a été consacrée, tout son ministère, ça a été consacré à ce peuple, à prier pour ce peuple, à être juge en Israël, à l'accompagner, y compris dans ses guerres, dans ses victoires. Et il se trouve que ses enfants ne marchent pas sur ses traces. Je pense que pour Samuel et son épouse, ça devait être une grosse déception, mais c'était comme ça. Et les responsables du peuple viennent le juger et en fait rejeter aussi tout ce que Samuel représente et Dieu qui est derrière. Et face à une telle déception, charnellement, Samuel, il aurait dû dire « Mais quoi ? Mais on vient me dire ça à moi ?» Se mettre en colère, envoyer tout ça balader et dire « Mais débrouillez-vous tout seul à partir de maintenant ?» Et en fait, non. Samuel, il recherche la pensée de l'Éternel. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait dans une prière éclair face au responsable ou s'il a dit « on va prendre un temps et je vais aller me mettre un peu à l'écart pour y penser ». Mais on remarque deux effets qui sont produits par cette prière. Le texte souligne « Samuel pria l'Éternel ». Et je vous souligne deux points. La première chose, c'est que Dieu lui apporte un éclairage sur la situation. Samuel, il comprend que ce n'est pas lui, en fait, qui est rejeté, que derrière, c'est plus profond. La situation, quelque part, elle le dépasse. Il comprend aussi que c'est le temps de la royauté maintenant qui est venu pour Israël. Éclairage global, mais éclairage aussi personnel, puisque Dieu prend soin de lui. Il dit « Attention, c'est pas toi qui le rejette. » il l'éclaire, Samuel peut avancer. Et c'est mon deuxième point. Finalement, il va avoir un impact, Samuel, dans sa vie, sur ce peuple, puisque il peut renoncer à la colère qui aurait dû venir, il peut renoncer au découragement, à l'envie de tout envoyer balader. Et au lieu de ça, eh ben, en fait, c'est lui qui, selon l'ordre de l'Éternel, va oindre les deux prochains rois d'Israël, et il va continuer dans le reste de sa vie son ministère pour ce peuple. Et je trouve que c'est un très bel exemple de marche avec Dieu, dans la dépendance et y compris dans la difficulté. On en connaît tous dans nos vies. Et c'est une vie, quelque part, cet épisode, c'est le reflet d'une vie qui est habituée à rechercher la guidance de Dieu. Il me semble qu'on ne peut pas vivre la sanctification, on a un peu parlé ce matin, le fait d'être transformé à l'image du Christ dans nos vies, sans cette dépendance quotidienne, sans ce secours du Seigneur, que ce soit dans les difficultés, dans nos soucis, au quotidien. Alors moi, le premier, j'ai à développer cette dépendance, je le sais. On ne peut que s'encourager à le faire et être exemplaire par rapport à ça, avec le secours et la grâce du Seigneur, bien sûr. Alors récemment, j'ai lu quelques pages d'une psychiatre qui est américaine, qui s'appelle Kay Redfield Jamison. Et son livre, il s'appelle « De l'exaltation à la dépression ». Et écoutez bien, « Confession d'une psychiatre maniaco-dépressive ». Et il se trouve que c'est une experte américaine, effectivement reconnue de ce trouble de bipolarité, et avec la particularité qu'elle en souffre elle-même, que ça a été diagnostiqué par des confrères et qu'elle a dû toute sa vie lutter aussi contre ça, mais elle compatit aussi avec ses patients. Et j'ai montré une image là de Gélule, et en fait, elle explique à quel point elle compatit avec le fait que c'est difficile de prendre son traitement. Il existe un traitement au lithium qui permet de bien, assez bien, continuer à vivre d'une manière normale quand on a ce trouble-là. Ça agit sur le cerveau d'une certaine manière. Et en fait, surtout quand ça va bien et que ça commence à aller mieux, eh ben on a tendance à plus prendre ce traitement-là. Et elle-même, elle comprend bien ce combat-là. Elle en parle dans son livre. Et il me semble que la prière, quelque part, en partie, c'est un peu notre lithium. C'est-à-dire que c'est vital et en fait, on en a besoin pour vivre une vie normale. Mais notre pensée, c'est qu'en fait, on serait mieux si on était autonome. On pense parfois même que Dieu, il attend de nous qu'on arrive par nos propres forces à le satisfaire. Mais en fait, on a besoin de cette dépendance. On a toujours besoin de cette prière. C'est un peu comme notre lithium. Et en fait, on est plus normaux, plus nous-mêmes, plus qui on doit être en Jésus-Christ quand on prie, quand on dépend de son secours et quand lui, il vit en nous, qu'en fait, quand on ne prie pas et qu'on essaie par nos propres forces. Alors, bien sûr que la relation, la prière avec le Seigneur, c'est bien autre chose que juste un médicament pas très agréable à prendre. Mais en fait, retenons quand même cette leçon qu'on a besoin de notre lithium, qu'on a besoin de cette dépendance, on a besoin de s'y encourager. Donc c'était mon troisième tableau, une vie de dépendance. Et le dernier, le quatrième tableau, persévérer dans la prière. Alors, quelques temps plus tard, après la scène qu'on a lue, en fait, le roi Saül, il est donc établi sur le pays comme roi. Et Samuel va s'exprimer lors de la cérémonie d'intronisation. C'est dans la fête qui suit, on va dire, et c'est au chapitre 12 de 1 Samuel. Alors, le chapitre, il est très intéressant. Je vais juste lire un verset. Il se trouve que ce jour-là, malgré l'atmosphère de fête, Samuel, il est obligé de reprendre le peuple et de lui dire « Mais ce que vous avez fait devant l'Éternel, c'est pas bien, vous rejetez l'Éternel. » Et le peuple se repent du fait du discours de Samuel. Et Samuel, il leur dit en substance « L'Éternel vous aime, il vous abandonnera pas, mais prenez à cœur l'Éternel et ne vous détournez pas de lui. » Et voilà ce qu'il leur dit. Il dit « Mais pour moi, en ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin. » C'est le verset 23 du chapitre 12. Samuel, il est mis de côté, en partie, c'était le tableau 3. Et finalement, il vient quand même dire « Je persévérerai dans la prière, c'est mon ministère pour ce peuple. » Et on sait que c'est un combat dans nos vies de persévérer pour la prière. Pour bien mettre en perspective la vie de Samuel, je voudrais juste dire que ce texte, il fait énormément écho finalement à une scène qui est au début du ministère officiel de Samuel. C'était sa cérémonie de nomination comme juge. Et en fait, c'était un contexte de guerre avec les Philistins, le peuple voisin. Et en fait, le peuple a peur. et dit à Samuel, j'ai pas affiché le verset, mais c'est au chapitre 7, au verset 8, il dit, ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur, pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel, il a eu toute sa vie un ministère de prière, et la Bible le mentionne et le souligne. Et dans le chapitre 7, il y a quand même un verset intéressant qui parle de cet impact, puisqu'il est dit, c'est verset 13 du chapitre 7, « Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël, et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. » C'était des racines invisibles pour un fruit bien visible, et aussi parce que dans la dépendance du Seigneur, il a su persévérer. Alors j'aimerais aller juste vers une conclusion. Voilà un résumé des 4 points pour que nos vies elles puissent avoir un impact sur notre temps, qu'on puisse déjà avoir cette conscience que nos prières, c'est comme des racines invisibles dans le temps qu'on prend avec le Seigneur, mais que ça produira des fruits bien visibles dans le temps que Dieu voudra. Deuxième point, apprendre à mettre du temps dans nos vies pour méditer et prier. Troisièmement, dépendre de Dieu un peu en permanence dans notre quotidien. C'est un état d'esprit, rechercher sa grâce. Et quatrièmement, persévérer dans la prière, qu'on puisse tous s'y encourager et qu'on s'encourage chacun à des hommes et des femmes de prière selon le Seigneur. C'est individuel, c'est aussi en tant qu'Église qu'on puisse rechercher sa volonté dans nos projets. On fait des projets, mais quelque part c'est l'Éternel qui les conduit. Qu'on puisse s'encourager à prier aussi dans nos groupes de maison, les différents moments où on a cela pour ces temps pour le faire et que le Saint-Esprit puisse agir au mieux de nous, au mieux de vous, par ce moyen de la prière. Alors pour faire une application concrète et pratique de ce message, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes pour mettre en application. Et de la façon suivante, je vous propose qu'on se mette par groupe de 3 ou 4 pour prier, avec l'accord là aussi des responsables de l'Église. Alors si vous êtes en visite, si vous n'êtes pas à l'aise pour prier avec d'autres, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste écouter. Mais qu'on puisse prendre ce temps pour à la fois remettre peut-être à Dieu nos vies de prière, nos vies de piété, peut-être ce que Dieu aura mis sur notre cœur par sa parole ce matin, mais aussi nos projets d'Église, et finalement se remettre à nous, à lui aussi, collectivement pour les projets qui sont devant vous. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole, et je vous propose qu'on prie tout de suite, et Mika reprendra la parole après.